Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
L'inquiétude des salariés de Prisma, la panne de Google, la pub du futur, un monde post-Covid et un peu de joie de Noël.
Et on commence par les audiences évidemment. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
C'est M6 qui s'est imposé avec un record de saison pour le dernier épisode de L'Amour est dans le pré, saison 15. Le bilan de l'aventure a été suivi par 4 300 000 téléspectateurs, soit 17,6% du public. M6 est aussi leader comme toutes les semaines sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 27% de part d'audience. France 2 est deuxième avec un téléfilm inédit avec Catherine Jacob baptisé Hortense. 3 200 000 téléspectateurs au compteur pour 13,3% de part d'audience. Et comme souvent le lundi depuis la rentrée, TF1 pointe en troisième position. Cette fois avec la rediffusion du téléfilm Coup de foudre à Noël. 2 800 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 12,4% du public et 13% des femmes de moins de 50 ans. Et sur cette cible, pourquoi je vous le dis, c'est parce que TF1 est devancé par sa petite sœur TMC.
Non.
TMC qui rediffusait le premier Harry Potter, suivi par 1 600 000 personnes et qui pointe à 17% sur les femmes de moins de 50 ans.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec les suites de l'annonce de Vivendi hier.
Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré est entré en négociation exclusive pour racheter le premier groupe de magazines en France, Prisma Média, je vous en parlais hier. Prisma Média, c'est Capital, Télé Loisirs, Voici ou encore Femme Actuelle. Et les salariés de Prisma l'ont appris en même temps que nous, hier, juste avant 9h. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour à tous.
Vous avez pu vous entretenir avec plusieurs d'entre eux. Comment est-ce qu'ils ont réagi?
Eh bien, un mot est sur toutes les lèvres, la surprise. On a été sonnés, hein, c'est ce que m'ont confié plusieurs journalistes de différentes rédactions du groupe. En fait, il n'avait eu vent d'aucune rumeur de rachat. Et deuxième effet de surprise, le nom du repreneur potentiel, Vincent Bolloré, qui suscite quelques inquiétudes en interne. Des craintes pour les emplois, mais aussi sur l'indépendance éditoriale. Un journaliste du groupe Prisma Média s'interroge par exemple sur l'avenir du magazine Capital, qui fait de l'investigation économique. L'investigation, c'est un genre disparu de Canal+, après sa reprise par Vincent Bolloré. En 2015, il aurait empêché par exemple la diffusion d'un spécial investigation sur le Crédit Mutuel, selon Mediapart. D'autres journalistes cite comme source d'inquiétude la transformation d'Itélé en CNews ou encore le récent licenciement de Sébastien Thoen après un sketch parodiant la chaîne info du groupe Canal+.
Et qu'a dit la direction de Prisma Média aux salariés?
Alors, elle leur a rappelé que le rachat n'était pas encore acté, mais l'exclusivité des négociations indiquerait que c'est en bonne voie. C'était lors d'une réunion en visioconférence avec plus de 1000 salariés du groupe hier matin. Une direction qui s'est voulue rassurante et même optimiste. D'après elle, le rachat serait une belle opportunité pour Prisma Média avec des possibilités de développement. C'est aussi ce qu'indiquait le communiqué de presse de Vivendi. Ça n'a pas empêché le patron du groupe Rolf Heinz d'être très ému au bord des larmes, même devant ses salariés, parlant d'un deuil à faire de l'actionnaire actuel Bertelsmann. Le rachat pourrait avoir lieu, lui, très vite, hein, d'ici 3 à 6 mois. L'autre mot sur toutes les lèvres, désormais, c'est donc l'attente.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Hier, vers 13h, une panne mondiale de Google a paralysé des millions et des millions d'utilisateurs.
Elle a duré 45 minutes. Elle concernait tous les services édités par Google qui nécessitent une authentification en clair. Vous pouviez sans problème faire des recherches sur la page google.com, mais vous ne pouviez plus consulter votre compte Gmail ou regarder vos playlists sur YouTube ni jouer à Pokémon Go. Dans un communiqué à l'AFP en fin de journée, Google s'est excusé et a promis de mener un suivi approfondi pour être sûr que la panne ne se reproduise plus.
TF1 se met à la publicité ciblée.
Oui, on l'appelle aussi la publicité segmentée. Le groupe a signé hier, le groupe a signé un premier contrat de ce type avec Orange. Dans 2 semaines, à partir du 1er janvier, les abonnés à Orange pourront donc voir des spots publicitaires personnalisés quand ils regarderont TF1. Ces pubs seront sélectionnées en fonction de leur localisation, de la composition de leur foyer ou de leurs habitudes. Mais il faudra avant tout qu'ils aient donné leur autorisation. Alors TF1 n'est pas la première chaîne à franchir le cap. France Télévisions a été le premier groupe à s'engager en signant un contrat avec Orange et M6 lui a emboîté le pas le mois dernier en s'alliant avec Bouygues.
Le focus programme du jour, c'est un nouveau numéro de la série documentaire Ils font bouger les lignes. C'est ce soir sur France 5 dont Europe 1 est partenaire.
Cette fois, Olivier Delacroix s'intéresse au harcèlement en ligne. Le documentariste a interrogé plusieurs victimes, anonymes ou célèbres, de cette forme de harcèlement assez récente. Il explique le choix de se pencher sur Internet et ses dangers à Louise Bernard.
C'est un outil qui est devenu incontournable et génial, mais il est aussi génial que sombre, parce que justement, il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de règles, et que n'importe quel petit mec ou petite nana frustré est capable de vous faire beaucoup de mal, en fait. On a connu une époque où on pouvait moins se permettre ça. C'est-à-dire que les rapports étaient beaucoup plus directs et quelqu'un ne pouvait pas venir vous insulter ou vous déverser tout un tas d'insanités sans qu'il s'expose à une réaction de votre part.
Les victimes interrogées racontent leur souffrance, mais aussi comment elles ont décidé de se servir de cette expérience pour aller de l'avant. C'est ce combat qu'Olivier Delacroix souhaite mettre en avant.
Il est important pour moi de partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'épreuve qu'elles ont traversée par combat, parce que je trouve ça noble et que ça ressemble à mes valeurs de faire parler aujourd'hui ces héros anonymes, hein, mais qui sont ces héros des temps modernes, qui sortent du lot parce que il y a encore beaucoup de gens qui vivent des épreuves et puis qui n'ont pas ce réflexe de se dire j'ai vécu quelque chose, j'en ai tiré quelque chose, j'en ai appris quelque chose et je vais aller le transmettre aux autres.
Olivier Delacroix au micro de Louise Bernard et Eva Roque vous parlera plus en détail du documentaire à 10h05 dans son zapping du lendemain.
C'est officiel, Laurie Pester va faire son retour dans Demain nous appartient.
Elle a repris le tournage hier après 2 ans d'absence, c'est ce qu'a annoncé TF1 dans un communiqué. La chanteuse et comédienne va reprendre son rôle de Lucie dans le feuilleton quotidien de la Une, diffusion attendue au début de l'an prochain.
Et c'est également en début d'année prochaine que la série The Resident sera de retour aux États-Unis, mais dans un monde post-Covid.
Oui, ça sera le 12 janvier précisément sur la chaîne Fox et les scénaristes ont tranché. Pas question de parler de gestes barrières, de masques ou de tests PCR. Contrairement à Grey's Anatomy ou This Is Us par exemple, la série qui rencontre un joli succès sur TF1 se déroulera dans une réalité un peu alternative où tout le monde ou presque aura déjà été vacciné et le Covid sera un mauvais souvenir. Les scénaristes n'ont pas voulu ignorer complètement son existence au risque de manquer de respect aux soignants mobilisés comme jamais en 2020, mais ils ont préféré éviter de plomber les téléspectateurs en les replongeant encore dans le confinement et les risques de contamination. Quand la saison 4 arrivera en France, peut-être en 2022. On espère que cette réalité alternative sera devenue réelle.
Et on termine ce journal en musique.
Avec la chanson
ça
préférée de Philippe. Ça y est, c'est vraiment Noël. Le titre culte All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey vient de se hisser en tête des charts américains. Et ce n'est pas rien parce que ces charts cumulent les diffusions en radio, les écoutes en streaming et les téléchargements. C'est pas facile de s'imposer en pole position. Sorti en 1994, All I Want For Christmas Is You avait dû attendre l'an dernier pour enfin atteindre la pole position des charts américains, 25 ans après sa sortie. Et il y retourne cette année. Et vendredi dernier, c'est au Royaume-Uni que le titre s'est classé pour la première fois en 26 ans en tête du classement des titres les plus populaires.
Et vous pouvez évidemment retrouver toutes ces infos dans la newsletter Média d'Europe 1, newsletter quotidienne, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci beaucoup Charles Decaune.